Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en ce jeudi 21 septembre 2023, 20h pétantes. C'est l'heure de votre quotidien sportif qui est Time Sport chaque soir sur l'antenne de Beurre FM, votre radio préférée, chère auditrice et auditeur. On va parler de quoi au menu de cette émission ce soir? Et oui, Lens qui fait plaisir à toute l'Espagne et pas que, à l'Hexagone aussi, à la France, et qui ramène ce fameux nul en terre sévillane. On parlera de quoi aussi? De Marseille. Et oui, Marseille oblige ce soir. C'est l'Europa League. Marseille qui se déplace du côté d'Amsterdam avec l'Ajax. Et sans oublier aussi la suite du feuilleton de l'Olympique de Marseille. C'est promis avec toute l'équipe de Time Sport qui est avec moi ce soir, hein, qu'on va présenter dans cette émission avec le numéro du standard qu'on rappelle, le 01 53 48 3000. D'ailleurs, Adil Farkan, que vous retrouverez dès demain à 19h sur l'antenne de Beurre FM, est à l'écoute de cette émission justement pour écouter avec comme il se doit, avec les infos croustillantes de la part des auditeurs, des auditrices, mais aussi des consultants autour de la table. Allez, rien de plus simple, de bien rester calé sur Beurre FM, et oui, sur l'application beurrefm.net, sans oublier aussi le site internet et les replays de toutes vos émissions préférées. C'est parti, on présente ce magnifique plateau qui m'accompagne ce soir.
Time Sport. Time Sport. Il est pour parler.
Ça devient des habitués, hein. On est en compagnie ce soir de Benji et aussi de Mathieu. Bonsoir messieurs. Benji, comment ça va?
Bonsoir Bilal, comment tu vas? La forme? Moi ça va.
Ça va, tranquille,
bien.
Tranquille.
Très heureux pour cette deuxième du coup maintenant.
Ouais, c'est deuxième. Ça, deuxième. Titularisation, c'est ça?
Et voilà, on va prendre le poste numéro 10. Et
voilà.
Tranquillou.
Il est là.
Évidemment. Et après un beau soir de Ligue des Champions, on part sur un magnifique soir de Ligue Europa.
Et là c'est chaud. Et Mourad est à l'écoute et il aime beaucoup le tempérament de Benji. Tout comme Mathieu. Comment ça va Mathieu?
Bonsoir Bilal, bonsoir tout le monde. Ça va très bien et on va retrouver l'OM ce soir. Donc
c'est ça. Eh oui, l'OM avec la compo, on va la balancer juste après la présentation avec Adnan qui nous a rejoint. Bonsoir Adnan.
Bonsoir, bonsoir à tous. Oui, je vous ai rejoint et heureux d'être là.
Eh c'est vrai Adnan, même nous heureux, tout comme Solal à la réalisation. Bonsoir Solal, ça va? Solal est de partout. Désolé Solal.
Bonsoir à tous. Bah, voilà. Écoute, ça va super. Yo, écoute, franchement, et toi ça va bien?
Ouais, ça va tranquillement.
La patate. Et j'ai pas dit buonasera a tutti.
Buonasera. Eh oui, on les écoute en Italie et pas qu'en Italie. Ça c'est pour rappeler voilà qu'on a des auditeurs, des auditrices partout dans le monde et aussi avec le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Allez, avec vous les auditeurs, on se plonge dans le premier sujet de cette émission. C'est vrai que c'est Lens, les sons et or, Benjamin, ouais. qui face à Séville, ils ont franchement ils nous ont épaté. Ils nous ont épaté, oui, et moi, aussi ils ont épaté tout la plaine ibérique, hein, toute l'Espagne. Ouais. Hein, si
moi Lens m'a régalé, j'avoue que hier j'avais très peur.
Partout.
Ouais, j'ai eu très peur. En début de match, c'est vrai que les 20 premières minutes, 15 premières minutes de jeu,
oui,
on avait peur de voir le Lens qu'on voit en Ligue 1 depuis le début de saison.
C'est vrai.
Un Lens qui a du mal à jouer, qui a du mal à concrétiser des actions, qui a du mal à créer du jeu tout simplement, contrairement au Lens de la saison dernière. Et c'est vrai que ce but, étonnamment, leur a fait du bien. Ce but encaissé leur a fait du bien. Ça leur a permis de redévelopper leur jeu. Et là, à ce moment-là, j'ai vu un milieu de terrain qui jouait beaucoup plus au football, qui construisait, ouais. T'avais vraiment ce lien défense-attaque qui faisait la marque de fabrique de Hayes la saison dernière, qui là a été retrouvé. Et honnêtement, ça m'a fait plaisir. Et j'espère que ça peut être un électrochoc pour cette équipe lensoise. Parce que, au final, si on prend du recul, moi je me suis régalé sur le match d'hier.
Bien
alors
sûr.
Qu'au final, sur le papier, on était sur un match entre le dernier de Ligue 1 et le dernier d'Espagne. Et au final, le match était très beau et très physique. Et j'ai vu un beau match de Coupe d'Europe. Et les Lensois m'ont fait plaisir.
Ah bon, c'était là. Ramos. Ramos,
ouais,
c'était
et
là.
Ouais. Et pour moi, honnêtement, je sais pas vous autour de la table.
Ouais, savez, alors.
Mais pour moi, Ramos, hier, c'est quand même l'homme du match. J'ai trouvé que Ramos hier a fait
une
prestation XXL. Quand ce mec, tu lui mets sur la manchette le blason de la Ligue des Champions, il se transforme. Et c'était même pareil avec le Paris Saint-Germain la saison dernière. Hein. Les matchs en Ligue 1, il était un tour en dessous. En Ligue des Champions, tu sens que tout de suite, il prend le lead et ça devient un meilleur joueur.
Ouais. Mathieu avec Adnan, les 100 et or.
Non, c'est
en Champions League.
Comme Mathieu le dit très bien,
2023-2024, c'était une nouvelle édition.
C'était un match entre les derniers et franchement, c'était plaisant à voir. Après, on sait très bien que c'est deux effectifs qui ont un gros potentiel. Ça a été justement une remontée, on va dire, petit à petit, justement, de l'équipe lensoise par rapport à l'effectif qui a été renouvelé fortement.
Oui.
Voilà, c'est une des premières marches qui va leur permettre de remonter au classement, en tout cas en championnat de France. Mais non, ça a été un très très bon match. Et pareil, hein, l'équipe de Séville, moi aussi qui m'a fait plaisir d'avoir vu justement Ramos à ce niveau-là, ça a été quelque chose de très plaisant.
Oui, bah, je vais vous rejoindre autour de la table.
Ça va, ouais.
J'ai J'ai eu très très peur sur les 10 premières minutes,
oui.
Notamment avec le but d'Ocampos, mais
sur l'erreur de Samba,
sur une erreur de Samba et le but de Fulgini aussi sur une erreur un peu du gardien de, du FC Séville.
Tu fais bien de me rappeler.
Une faute de main quand même. Il y a une petite faute de main.
Ouais.
Mais non, c'est vrai qu'on a. On n'a pas vu les deux derniers des championnats français et espagnols hier soir.
Non,
c'était un beau match. Il y avait du rythme.
Les
supporters ont été à la hauteur aussi parce qu'il y avait une super ambiance à Séville. Mmh. Et oui, comme tu dis, beaucoup, beaucoup d'engagement, beaucoup de cartons dès le début pour les Lensois. Je me suis dit d'ailleurs qu'ils n'allaient pas finir à 11 cette rencontre.
Ah, mais aussi bien des deux côtés.
J'ai eu un peu
coup,
peur à un moment donné. Mais oui, comme tu dis, ce but les a complètement relâchés et ils ont réussi à. On a un peu vu le Lens de l'année dernière hier soir et
sur
ça
la
fait
deuxième
plaisir.
Mi-temps, ouais, clairement. Ouais. J'ai retrouvé cette animation offensive qui faisait la force de Hayes avec vraiment son schéma tactique qui lui est bien propre et même j'ai trouvé vraiment ce milieu de terrain qui a ultra bien travaillé parce que on avait deux milieux de terrain côté lensois, on avait trois côté sévillan et malgré ça, il y a vraiment eu
une densité.
Ouais, il y avait une densité qui était extrêmement solide du côté de Lens où t'avais l'impression qu'ils étaient en supériorité numérique au milieu de terrain alors qu'ils jouaient avec un milieu de moins et alors peut-être qu'après on pourra ouvrir d'autres débats mais c'est vrai que l'effectif sévillan se vieillit et notamment Rakitic que j'ai beaucoup aimé le joueur mais c'est vrai que là je l'ai trouvé un ton en dessous.
Après Rakitic n'a pas été le plus mauvais
entraîneur
Nesyri a été transparent alors que pour moi c'était l'une des plus grandes menaces pour les Lensois.
Ouais, mais puis après t'as le match de Wai qui est absolument exceptionnel et j'espère qu'il arrivera aussi à continuer sur un rythme intéressant parce que c'est un bon petit joueur et
on va voir.
Ouais. Pour prendre le relais de Openda, c'est quand même autre chose.
Oui,
Mendy débarque. J'espère pour lui qu'il arrivera.
Ouais, Mendy débarque qui est en sens justement Aise, hein. Ouais, l'entraîneur du FC Séville à Nanin. Ouais, comme quoi, voilà, les entraîneurs des clubs français, voilà, on la cote quoi.
Non, mais pour la philosophie de Aise, on la connaît. Et effectivement, voilà, c'est pas un entraîneur frileux va jouer à 5-6 derrière. Il va jouer l'attaque et c'est vrai que ça a été un match plaisant entre deux équipes qui sont très joueuses. Et encore une fois, je vous dis, c'est des équipes qui sont en difficulté, certes, parce que leur effectif a beaucoup changé. Des joueurs clés sont partis aussi bien à Séville que RC Lens. Mais non, je pense que, enfin, en tout cas, moi, je suis confiant pour ces deux équipes-là.
Après, comme tu dis,
alors Mathieu,
ils prennent le jeu offensif tout en restant très solide derrière, quand même, parce que. Moins en ce début de saison, mais en tout cas sur ce match-là, même s'ils prennent un but avec, comme on a pu dire, une petite erreur de Brice Samba, ils ont été quand même relativement solides derrière.
Tout à fait.
Donc, ils ont été offensifs.
Assez compact,
et c'est vrai que le match d'Eli Wai est vraiment extraordinaire. Sur les petits
appuis,
certains gestes qu'il a pu faire sont vraiment incroyables.
Ouais.
Mais je les ai trouvés aussi très impressionnants défensivement.
Mais moi, j'ai donné quand même mon petit bémol par rapport au match d'hier. C'est quand même, je suis pas très confiant justement pour la suite en Ligue des Champions pour Lens.
Ah, carrément.
Ça a été quand même une équipe de Séville dont le niveau il n'est pas non plus c'est deux équipes malades mais c'est vrai que les prochaines équipes qui vont affronter ça va être compliqué pour moi.
Je suis assez d'accord sur papier parce que c'est vrai que c'est une des plus faibles équipes de Séville depuis très longtemps.
Exactement.
Certes, ils ont gagné une Ligue Europa la saison dernière mais pour autant on ne sent pas la même dynamique dans cette équipe parce que d'un côté comme tu le dis si bien comme tu l'as très bien dit tout à l'heure ils ont perdu des joueurs et puis en plus il y a des joueurs qui vieillissent mine de rien faut pas non plus limiter ça c'est-à-dire qu'ils ne vont plus pouvoir avoir le même rythme sur le terrain et ça va se ressentir au fur et à mesure même de la saison c'est que là on est qu'au début de saison et malgré ça il y a des joueurs qu'on voit déjà un cran en dessous et on parlait des joueurs qui étaient partis d'un côté à Lens tu perds Fofana qui était quand même absolument le leader de cette équipe
le maître du jeu
sur le terrain ou même dans les vestiaires je pense que c'était très fort véritable âme de capitaine et de l'autre côté on perd Bounou quand même enfin on perd du côté de Séville tu perds Bounou qui est quand même peut-être
excellent,
top 5 gardien
le portier international marocain
actuellement donc c'est vrai que c'est deux grosses pertes et puis surtout du côté de Lens j'espère qu'ils arriveront à retrouver un Frankowski à un meilleur niveau qui a beaucoup de mal à revenir
depuis quelques matchs moi je le regarde c'est compliqué
c'est
pour lui
compliqué,
depuis le début de saison c'est
très
compliqué
même fin de saison dernière déjà je commençais déjà c'est toujours un joueur que j'ai eu un peu de mal. Je le trouvais très bon par moment, mais dans la majorité du temps, je le trouvais souvent un peu limité.
Ouais. Après sur la suite en Ligue des Champions pour Lens, moi, je suis un peu plus positif que vous.
Allez, confiant, Eder, Mathieu.
Il y a Arsenal qui reste l'archi favori du groupe. Par contre,
dans ce groupe B,
la prestation du PSV hier soir,
4-0,
c'est vraiment très très en dessous, et même je trouve que même Lens peut largement rivaliser avec les
Arsenal.
Avec les...
Allez, Mathieu.
Alors moi, deuxième je suis Lens, hein. Un peu moins égalité confiant que toi avec Séville. Par rapport justement à l'historique des matchs entre le PSV et les clubs français.
Oui, ouais.
On a toujours dit ça. Le PSV est à notre portée, etc., etc. Et à chaque fois, on a des désillusions. Mais même pas qu'un peu. Il n'y a même pas une petite différence. C'est vraiment flagrant. Et je pense que le PSV a plus cette mentalité Ligue des Champions, qui sont plus habitués aux joutes européennes, en tout cas, que le RC Lens qui, voilà.
Après, venir jouer à Bollard, pas d'accord avec toi, Mathieu.
Venir jouer à Bollard, ça reste compliqué pour n'importe quelle équipe.
Historiquement, c'est sûr que ça joue pas pour nous. Mais je trouve que là, à voir dans les prochains matchs de championnat, comment ça se passe déjà pour le RC Lens,
Arsenal, Lens, Séville,
s'ils vont pouvoir se servir du match d'hier soir pour remonter au classement. Mais
ok, c'est jouable.
Historiquement, c'est compliqué, mais je trouve que sur le papier actuellement, c'est plus que faisable.
On avait dit la même chose avec le Panathinaikos et Marseille.
À l'époque, Marseille,
c'est pas très cool.
On aura le temps de parler de Marseille. La réaction avec le réalisateur, elle est sur là, qui aimerait réagir sur les sangs et or.
Bien sûr, moi, un mot qui me vient à la bouche tout de suite, c'est surprise. Franchement, Lens, qu'on connaissait, ancien grand victorieux de la Ligue 1 l'année dernière, et qui finit un peu lanterne rouge. Bon, certes, c'est le début du championnat, on va avoir une certaine tolérance.
Bien sûr.
Séville, bon, ils sont à peu près au même point, mais moi, il y a un mot que j'aimerais dire, c'est l'expérience. Séville a une expérience beaucoup plus grosse
Benjamin, c'est vrai.
Tout à fait. Donc, pour moi, c'est une très grande surprise. J'ai vu donc une équipe de Lens qui a su montrer du caractère, et c'est plutôt rare en Ligue des Champions pour un club français. Normalement, les Français, très rapidement, on se fait rouler dessus par des grosses machines ou même par des clubs qui ont l'habitude de jouer la Ligue des Champions. Voilà, Lens m'a beaucoup surpris par sa combativité, et je leur souhaite tout le meilleur pour la suite de la compétition.
C'est pas faux.
Ouais, je suis d'accord. C'est un club, peu importe quel club tu supportes en France. Évidemment, on va pas prendre les autres clubs du Nord, bien évidemment, mais c'est un club que t'as toujours du mal à détester. Parce que c'est un club qui a une histoire, c'est un club qui a un public absolument fantastique, qui évoque une sympathie quand tu vois les tribunes de Bollard, quand tu vois les déplacements des supporters, même à Séville hier, les 2000 supporters qui faisaient un bruit absolument fantastique dans les rues de Séville, qui lorsque le bus des joueurs sévillans arrivait, ils les ont applaudis, mais vraiment applaudis, genre de gentillesse, de politesse, de fair play. Et t'as même un joueur sévillan dont le nom m'échappe, qui s'approche d'eux, et quand il voit que c'est les supporters lensois, fait demi-tour en mode genre un peu dans l'incompréhension, mais qu'est-ce qui se passe, d'accord, mais je vais y aller, je leur fais un petit signe, mais je m'en vais, quoi. Et je trouve que c'est un club qui a une mentalité absolument fantastique.
Bah, depuis quelques jours, on peut le considérer comme le meilleur public de France.
Ah mais moi je suis
par
d'accord.
Par rapport aux derniers événements qu'il y a.
Mathieu est prêt à se préparer.
Voilà, je trouve que les meilleurs publics de France depuis très longtemps, ça sera toujours Lens, Marseille, et même en seconde division. Et c'est un supporter lyonnais qui vous le dit, ça m'arrache un peu la
Lyon aussi, c'est pas mal.
Ouais, mais Saint-Etienne reste quand même.
Ouais, Saint-Etienne, c'est costaud aussi.
Une enceinte très très solide et un public absolument exceptionnel.
Pas faux.
C'est fair play, c'est fair play.
Il a pas tort.
Ça fait mal de le dire quand même.
Mais en tout cas, on n'oublie pas, ce soir France-Namibie, après une victoire poussive sur l'Uruguay, messieurs, c'est le 15 de France qui récupère ses cadres pour la troisième journée des phases de poule face justement à la Namibie. Les Bleus espèrent justement retrouver cet élan avant de passer, on espère, et d'aller jusqu'au bout. Mathieu, un petit mot avant la pause, après, rapidement. Ça se joue à l'Orange Vélodrome, à Marseille.
Devant le meilleur public de France.
Avant d'accueillir le pape, on l'oublie pas, sur le week-end.
Face à la Namibie, sans problème, normalement, il devrait y avoir une victoire bonifiée, mais après, contre l'Uruguay, c'était poussif,
c'est vrai.
Après, Galtier avait fait 12 changements sur 15.
Aussi.
Donc, il a fait un énorme turnover. Au final, ça s'est bien passé. Heureusement pour lui. Mais c'est vrai que, bon, normalement, ce soir, contre la Namibie, il y a les titulaires qui sont de retour. Et donc, normalement, ça devrait...
Ils ont pris 70 contre les All Blacks.
On espère, en tout cas, on suivra de près. Et on reviendra sur ce match dès demain sur l'antenne de Beurre FM, et aussi dans la matinale avec Kim dès 6h. Allez, une courte pause et on revient avec toute l'équipe de Time Sport.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, ce jeudi soir, 20h16, c'est la seconde partie de cette émission, on est ensemble jusqu'à 21h. Je rappelle, autour de la table pour m'accompagner dans ce magnifique studio, on est avec Benji, Mathieu, Annan, et de la partie, tout comme vous, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez l'être en nous appelant, en composant le 01 53 48 3000, tout comme Jouba, notre journaliste consultant. Il est dans l'hémisphère sud, Jouba, il est très très loin, il est en place pour... justement voilà le match de ce soir des Bleus, mais bon, on va s'attarder sur l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, on peut aller, bon, on va aller sur l'Olympique de Marseille avec justement le débat du jour. Est-ce qu'on peut avoir notre bête, c'est bon? Ouais. Alors on revient rapidement. Alors l'OM, l'incompréhension avec justement que voilà, cette incompréhension, en tout cas moi justement, moi je la comprends pas, on sait pas.
Alors c'est plus
on sait
ce qui
pas.
Se passe.
Non, c'est plus ce qui se passe du côté de Marseille, mais elle provient d'où? De la direction, des supporters? Selon vous, c'est la question que l'on posait à vous, les auditeurs, mais aussi sur les réseaux sociaux. Justement, aujourd'hui, on ne sait pas ce que l'on va faire, mais on se la pose cette question avec tout le monde autour de cette table. Anan, c'est vrai qu'il s'en est passé des choses sur Marseille.
Ouais. mais sans parler mal des supporters, malheureusement, ils sont un petit peu ingrats parce que faut se rappeler justement dans quel état Longoria a récupéré l'OM. Et malheureusement, il lui reproche une multitude de choses qui s'avèrent ne pas être vraies.
Il y a beaucoup de choses.
Voilà, ouais. On a vu, il lui reproche justement d'avoir mangé sur des transferts, entre guillemets, et il a lancé un audit pour voir justement si c'était vrai. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que la direction, justement, a accepté cet audit-là. C'est là où, en fait, moi, j'en veux pas aux supporters, mais j'en veux plus à la direction qui, en ayant entendu certaines rumeurs, ont accepté justement l'audit de c'est plus à la direction, enfin à Macourt, etc. Et compagnie, je me dis mais merde, ils écoutent jusqu'au bruit de couloir et derrière ils disent bon écoute bah ok, on va faire un audit, on va voir si t'es clean. Ouais. Alors que normalement il lui a confié les clés du club, il doit y avoir une totale confiance. Et malheureusement, on voit qu'elle est pas. Elle est, voilà, c'est pas réciproque.
C'est pas réciproque, justement. On va essayer de reprendre notre consultant qui se trouve, du côté de la Réunion, et on va revenir avec toute l'équipe de Timesport. Allez, une courte pause qui va s'imposer rapidement, et on revient sur l'Olympique de Marseille et son match face à l'Ajax d'Amsterdam.
Timesport revient dans un instant.
Mercedes-Benz.
Cet été, vous avez surfé de belles vagues, visité des musées étonnants et goûté des saveurs inoubliables. Pourtant, les meilleures journées vous attendent maintenant. Jusqu'au 30 septembre, les Star Days reviennent chez Mercedes-Benz. Accédez au meilleur de l'électrique au volant de nos SUV EQA Edition et EQB Edition. Disponible à 41 950 euros, bonus écologique de 5 000 euros déduits. Star Days journée étoilée, détails sur mercedes-benz.fr.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Bonjour. Ah, mais vous fêtez votre anniversaire?
Oui, Motrio a 20 ans cette année.
Et vous proposez 20 euros de réduction sur les paires de pneus Motrio?
Oui, ça tombe bien, vu que vous aviez prévu de changer les vôtres.
C'est votre anniversaire et c'est moi qui en profite.
Du 1er septembre au 31 octobre, profitez de 20 euros de réduction pour tout changement de deux pneus de la gamme Motrio. Offre réservée aux particuliers. Et en ce moment, pour les 20 ans de Motrio, tentez de faire le plein de cadeaux sur 20ans-motrio.fr. Voir conditions dans les garages participants.
Leclerc, bonjour.
Oh, écoutez ça. Le 21 septembre, le soleil entre en Capricorne avec Mercure en quinconce. Ça sent l'opportunité financière.
Comme une promo sur Fleury Michon?
Eh ben voilà, les astres ne mentent jamais.
Eh oui, le 21 septembre seulement, profitez de 34% de réduction sur tous les produits Fleury Michon. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre réservée aux porteurs de cartes. Hors promotion en cours. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
L'actu ne s'arrête jamais pendant l'anniversaire très spécial Conforama.
Et le scoop du jour, la table Manchester jusqu'à 6 couverts fabriqués en France à 198,99€.
Soit 50% d'économie.
Conforama, jusqu'au 2 octobre, voir conditions sur Conforama.fr.
Heures, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour, voilà, après cette courte pause, on est ensemble jusqu'à 21h avec toute l'équipe. Benjamin, je le rappelle, Mathieu et aussi Annan. Allez, le second dossier de cette émission.
Time Sport. La parole des sociaux.
On revient avec toi, Annan, et aussi avec Benjamin, sans oublier Mathieu, la crise à l'OM avec Pablo Longoria.
Exactement, non, mais voilà, on oublie comment Longoria est arrivé et notamment par une crise des supporters
Et là, ils sont en train de faire partir Longoria par une autre crise des supporters. Ils ont réussi à faire partir l'entraîneur.
Ouais, une crise. Moi, j'irais un coup d'État, quoi.
Parce que tu penses que tu
part dans tous les sens.
Bah
ça.
Ouais, mais je vais aller plus loin. Ouais. Dans ces cas-là, on est revenu justement au niveau district où alors, les supporters rentrent et tapent un coup de pression. Et c'est ce qui s'est passé hier. On rentre, on menace, on dit on a des choses sur, on a des soi-disant des rumeurs sur toi, etc., etc. Mais
on comprend plus rien, c'est pour ça.
Il a fait une interview comme quoi il a prouvé que par A plus B qu'il y avait rien, que le mec en fait il se bat non seulement en interne, parce que pour faire bouger les lignes, justement pour ramener le club là où il veut l'emmener, et ben malheureusement il doit faire bouger des personnes de leur zone de confort et ça dérange aussi. Mais en plus de ça, ses propres supporters viennent et l'insultent, le menacent alors qu'il a ramassé le club qui était quasiment par terre. Pendant un moment, on parlait même, mais bon, on sait même pas comment on va faire pour recruter, il y avait plus d'argent. Et là, on voit, il y a des recrutements à tout va, ils ramènent des joueurs, Alexis Sanchez, etc., etc. Et là, aujourd'hui, voilà, les supporters, bah, ils mangent de la confiture, mais malheureusement, ça leur suffit pas.
Donc, tu penses qu'il va partir?
Oui, Mathieu.
Mais en tout cas, là, il s'est mis en retrait.
Ça veut pas dire qu'il va partir.
Mais
il a été, il a dit qu'il avait été profondément choqué par ce qui s'est passé. Mais Marcelino, lui, est parti.
Ouais.
Je pense que ça fait plaisir aux supporters parce que les supporters n'en voulaient pas dès le début.
Ouais, mais le football, c'est pas ça. Football, c'est pas de faire plaisir aux supporters.
Je suis d'accord.
C'est de travailler sur un projet.
Je suis d'accord avec
d'aller
toi.
D'aller convaincre un entraîneur parce qu'il l'a convaincu. Je pense qu'il a travaillé sur le dossier pendant au moins un mois. On sait tous. C'était le choix numéro un. Qu'aujourd'hui, à cause des supporters, tout ce qu'il a bâti, parce qu'il a bâti un effectif, ça, c'est tombé à l'eau.
Je te rejoins sur le fait que les supporters sont peut-être allés un peu loin par rapport à cette réunion, etc. Mais je pense que Longoria s'est mis en retrait justement il a pris du recul pour voir la situation d'un peu plus loin. Mais je pense qu'il partira pas. Je pense qu'il va rester au club et je pense qu'il va faire mentir tous ceux qui pensait qu'il allait partir. Je pense qu'il va rester. Je suis profondément persuadé qu'il va rester au club.
Ouais, tout comme Kamel qui nous écoute et qui nous dit dédicace justement à toutes les féminines de l'Espérance sportive de Sartrouville, voilà, en banlieue parisienne. Okay. Benji, l'écoute, Benji.
Moi, d'habitude, c'est vrai, Marseille. J'ai plutôt des avis tranchés sur les situations par habitude. On l'a vu avec quand on a pu parler de Marcelino la dernière fois où j'ai pu m'embrouiller avec notre cher ami Mathieu autour de la table. mais là, pour le coup, je vais être plus nuancé sur la situation olympique de Marseille. Et maintenant que Marcelino est parti, en fait, le problème, c'est que j'ai même presque plus envie de parler de football, mais presque de politique, en fait, sur cette situation et sur ce qui se passe actuellement à l'Olympique de Marseille. Et je pense que le problème de ce qui se passe, quand je dis que je suis nuancé, c'est que pour moi, ce n'est pas que les supporters, ce n'est pas que Longoria, c'est pas que McCourt, c'est les trois. Le problème, tout le monde, c'est que le problème, c'est de McCourt aux supporters.
Ah, carrément.
Mais pour moi, c'est vraiment, ils ont tous leur part de responsabilité et chacun en mettant leur nez à des endroits, en faisant des choses qu'ils devraient pas faire.
J'aimerais que tu m'expliques en quoi Longoria est coupable.
Et ben Longoria est coupable dans le sens où il y a eu ce qu'on appelle du copinage, énormément de copinage au sein de l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire en plaçant énormément de ces gens qui sont proches.
Mais regarde, jusque là, ça fonctionne.
Il place, ses potes à des postes qui sont importants, même Marcelino, ils sont potes depuis 17 ans, il est là, c'est l'homme de la situation, sauf qu'à Marseille, ça marche pas.
Ouais.
Il va placer c'est Autoro, qui est le chef du centre de formation du coup de l'Olympique de Marseille, qui fait des choix qui sont très discutables, et surtout au-delà de ça, il va faire copinage avec des agents de joueurs en mettant la pression à des jeunes joueurs du centre de formation, ou même des jeunes joueurs qui ont déjà signé en pro pour qu'ils changent d'agent. On pense notamment, ce qui est fortement probable, on va toujours prendre des pincettes quand on parle de ce genre de situation, mais ce qui s'est passé avec Bamba Dieng notamment, potentiellement des pressions pour qu'il change d'agence, de joueur, etc. Et tout.
Sinon, on avait entendu ça.
Ça finirait par partir. Il a décidé de ne pas céder et on a vu où ça a mené. Donc en fait, il a fait des bons choix, je vous rejoins. Longoria a fait du très bon boulot à l'Olympique de Marseille lorsqu'il est arrivé. On le sait, il a réussi à soulever le club.
Il fait toujours du très bon boulot.
Oui, il fait du très bon boulot, mais attention, parce que quand tu regardes ce qu'il a fait, que ce soit à Valence ou à la Juventus Turin, il y a toujours eu des soucis.
Mais c'est pas le même poste.
Alors, c'est là, pas le même poste.
Quand t'es président, tu viens, tu ramènes de la compétence, et pour amener de la compétence, tu ramènes des gens de confiance autour de toi. Dans n'importe quelle entreprise, n'importe quel club de football, quand tu viens, tu ramènes de la compétence et des gens en qui tu as confiance, au qui tu vas pouvoir déléguer. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Ouais, le centre de formation, on parle du centre de formation.
Bien sûr.
Depuis combien de temps le centre de formation, il a pas sorti de joueur?
Mais je suis.
Le centre de formation de Marseille, je suis désolé, il est pas connu pour être un centre de formation. Il a toujours été, on va dire, connu pour sortir très peu de joueurs. Combien de fois ils ont carrément liquidé 18 joueurs, 20 joueurs, justement, qui sortaient du centre de formation. Ils n'ont pas proposé de contrat pro. Donc, faut pas me dire qu'aujourd'hui, le centre de formation, c'est un problème. C'est un faux problème.
C'est peut-être un faux problème, mais dans tous les cas, c'est un problème de plus dans ce qui se passe actuellement
dans l'Olympique de Marseille. Dans ce qui se passait bien. Parce que depuis ces deux saisons, Marseille, ça nous régale. Même s'il y a eu des petits trucs, etc., en partant, justement, du point d'où ils étaient, faut regarder aussi la
Je suis entièrement d'accord avec toi, mais le problème, c'est que on a l'impression que, comme je te disais, que, en fait, l'argumentaire que je voulais amener sur la table tout à l'heure, c'est que, certes, si maintenant il est président, il a des choix forts qu'il doit faire pour reconstruire le club, pour amener l'OM dans une bonne direction sur la durée, pas faire que des coups d'éclat, etc. Et tout, comme tu le disais tout à l'heure, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que c'est le seul président que je connaisse qui n'est pas un minimum actionnaire du club. Il n'a rien, il n'a pas d'argent dans ce club, il n'a rien. C'est McCourt qui met absolument tout dans le club, et du coup, c'est-à-dire qu'il peut se permettre aussi certaines choses sans rien perdre en retour aussi également.
Je suis d'accord avec toi.
Mais moi, part de la crédibilité.
Je vais donner une autre vision.
Dis-moi.
C'est le seul président de club qui connaît le football, qui a été directeur sportif, qui connaît le football, qui aussi peut gérer les transferts, etc., et qui peut ramener justement une cohésion sportive à ce club.
Il a donné une autre vision aussi du club. Mathieu, vas-y Mathieu, il n'est pas d'accord. Alors, vas-y Mathieu.
Il a deux casquettes. Président, directeur sportif. Et donc oui, à un moment donné, comme il est président, il peut plus être directeur sportif. Donc il ramène du monde, il ramène des connaissances. Je te rejoins tout à fait là-dessus. Regarde, avec Ribalta, ça fonctionne extrêmement bien.
Mais moi, je suis d'accord que d'un point de vue des recrutements, il y a eu des erreurs, il y a eu des grosses erreurs aussi qui ont coûté très cher à l'OM. Parce que l'OM, ce qui est aussi reproché de... Parce que là, je me fais un peu l'avocat du diable des supporters. Parce que comme je vous ai dit, je pense que tout le monde a ses parts de tort. Même les supporters n'ont pas à agir comme ça. Enfin, dans quel monde? Moi, j'ai souvent milité pour que les supporters soient plus écoutés, aient plus de considération, mais n'aient pas de pouvoir. Attends, il ne faut pas que les supporters aient du pouvoir non plus dans le club et disent tel joueur joue, tel joueur ne joue pas, etc. Et tout. Ça, on est bien d'accord.
On n'en est pas arrivé là non plus.
Ah, on n'en est pas arrivé là non plus. Il y a quand même eu des pressions pour faire sauter l'entraîneur, pour faire sauter tout ça.
Benji, avec Mathieu et avec Anna, on va marquer d'une courte pause. Encore une fois, avant de vite revenir concernant l'Olympique de Marseille, on rappelle aussi en abdonné aux auditeurs qui nous écoutent, avec justement supporters du MCA d'Alger et aussi supporters de l'Olympique de Marseille, j'espère, une toute autre chose pour l'OM.
20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h et 30 minutes. Justement, on est avec toute l'équipe de Time Sport ce soir jusqu'à 21h avant d'accueillir Vanessa, le 01 53 48 3000. On va donner la parole à Jouba. Je sais pas si on peut l'avoir, notre Jouba avec nous. On parlait de l'Olympique de Marseille, on parlait de ses supporters et aussi du nombre important d'associations de supporters à l'OM qui ont pu un très long communiqué ce jeudi après-midi dans lequel la direction est de nouveau sévèrement critiquée. Bonsoir Jouba, comment ça va?
Salut les gars, ça va et vous-même?
Ça va très très bien Jouba, tranquille. Hein, bon là, on parle de Marseille.
Plaisir, là, je retrouve les deux nouveaux qui nous ont rejoints et puis Nat, l'ancien.
Nat, c'est un ancien, Benji avec Mathieu, ils viennent de signer.
Benji, Mathieu est le représentant du 7-8 évidemment, Nat qui est là. Bon. Les frérots, alors, là je tombe des nues.
Et pourquoi Jouba?
De temps en temps, je suis pas d'accord avec Adnan qui met en valeur le travail de Longoria. Mais avant Longoria, il faut pas l'oublier. Avec Rudy Garcia, l'Olympique de Marseille a fait une finale d'Europa League. Ils ont pas attendu Eva Longoria, j'ai envie de l'appeler, pour finir troisième de championnat de Ligue 1. Excusez-moi.
Ah, carrément.
Le troisième place project, t'as pas besoin d'Eva Longoria, quoi. T'as besoin d'un cadre. Maintenant, je pense que ce qui se passe autour de l'Olympique de Marseille, c'est vraiment une guerre de gangs et une guerre d'influence entre d'un côté Longoria et puis toute la mafia qui gravite autour de l'Olympique de Marseille et qui, de manière tacite, instaure un petit peu un pouvoir depuis tant d'années. On parle aujourd'hui de Zaroual qui sort aujourd'hui. Le nom n'est pas anodin.
Vous prenez pas ça, Jouba. Ça n'engage que vous, Jouba.
Oui, mais moi j'en
Bien sûr, parce qu'il y a le communiqué.
Évidemment, je ne dis pas que Zaroual est un mafieux. Loin de là, toute
attention,
de dire ça. Non, je dis pas ça. Je dis juste qu'il y a des mafias qui gravitent autour de l'Olympique de Marseille et c'est pas nouveau et que de l'amour autour de l'Olympique de Marseille. Moi, bien je sûr. Pense qu'aujourd'hui, il doit pas y avoir de prise d'otage du club autour d'intérêts individuels et personnels, comme depuis, hélas, beaucoup trop longtemps autour de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, je le dis, appartient à ses supporters et c'est en ça que se crée le point de divergence avec Adnan. Parce que malheureusement ou heureusement, j'ai envie de dire, les clubs de foot ne sont pas des entreprises lambda et doivent prendre en considération les volontés populaires. Et heureusement que ça se passe comme ça. Parce que sinon, qu'est-ce qu'aurait été le business Saint-Germain, Adnan? Business Saint-Germain, si les ultras ne s'étaient pas rebellés, on aurait eu le droit à Messi, Neymar, à des joueurs paillettes.
Oui, mais aujourd'hui, est-ce que c'est un problème justement dans l'effectif?
Ouais.
Eh bien, bien sûr que c'est un problème, le fait qu'il y ait des entreprises privées, que ce soit Macour, que ce soit QSI, que ce soit des gens qui soient complètement absents des débats publics et des intérêts populaires, c'est un gros problème.
Oui, mais c'est le football des années d'aujourd'hui, et malheureusement, ouais. C'est comme ça. Maintenant, aujourd'hui, cette crise, elle est partie de quoi? Est-ce que le club est dernier, comme Lens, par exemple?
Non, elle n'est pas dernière.
Évidemment que non. Évidemment que non. Elle naît de groupuscules qui sont en guerre d'influence autour d'un club qui appartient à ses supporters avant
donc,
tout. En
fait. Donc on est d'accord, on parle pas de sportif là, Jouba.
Alors.
Évidemment, il y a rien de sportif là-dedans. Il y a absolument rien de sportif.
Donc c'est quoi le problème? Parce que même moi je comprends pas le problème.
Une guerre d'influence entre notamment ces gens-là, les winners, les patati, les patata.
Ah, les patati, les patata. Oui, c'est des gros bains de supporters. Ouais.
Mais qu'est-ce qu'on
reproche? La vraie direction, Longoria, a voulu faire un forcing, a voulu leur dire moi, c'est moi qui impose mes potes. Et oui. Vous, et en l'occurrence Marcelino, et qui leur dit vous n'êtes que des supporters.
Ah, parce que maintenant, c'est les supporters qui vont choisir l'entraîneur, Jouba.
Les supporters ne
disent pas. Non, bien sûr que non. Mais par exemple, quand on fait atterrir le berger Galtier au PSG, les supporters se sont indignés. Et ben, visiblement, ça a porté ses fruits, parce qu'un an après, il est plus là. Il est plus là.
Les supporters sont là pour d'autres raisons, mais ça, c'est un autre débat.
Oui.
C'est un club de foot. Un club de foot n'est pas une entreprise. C'est pas Total Energy, cette entreprise de voyous. C'est un club qui appartient Jouba. À ses supporters.
On parle de l'Olympique de Marseille. C'est pas une entreprise de voyous, l'Olympique de Marseille, quand même, Jouba.
Oui, j'ai dit Marseille, c'est pas Total Energy.
Oui.
Marseille, c'est un vrai club, une vraie entreprise.
On laisse
avec
Total Energy où vous venez. Mais Jouba, il n'y a rien à voir là.
Total Energy, sponsor de la.
Oui. Mais on les laisse où ils sont. Là, on parle de l'Olympique de Marseille, on a parlé de ses supporters sa direction, bien sûr. Voilà. Il faut rester justement dans les clous. Hein. Voilà, Jouba, il faut. Bon, le rugby, on en a parlé
non,
en
c'est
plus.
Sûr. Moi, je suis dans les clous, les vis, les tournevis, t'inquiète pas.
Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, oui, ça fait pas plaisir à Jouba.
C'est quoi le problème avec Marseille? Pourquoi il y a eu cette réunion, même si elle était prévue, mais qu'est-ce qu'on reproche à la direction? Il faudrait que tu m'expliques exactement le point justement de non-retour.
Le copinage.
Outre le jeu déplorable de l'Olympique de Marseille et les choix stratégiques discutables de la présidence depuis le début de saison, les discussions se sont rapidement portées sur de nombreux dysfonctionnements, excusez-moi, du centre de formation. Voilà, je cite le communiqué qui est tombé dans l'après-midi des clubs de supporters de l'Olympique de Marseille. Vas-y, Mendy, avant de revenir à Jouba.
Voilà, ce qui ressemblera à des magouilles avec les agents, avec des agents de joueurs à faire marcher. C'est parce qu'on prend des pincettes, il y a eu des magouilles entre Longoria et des agents. Il y a eu des préférences, il y a eu des pressions mises sur certains joueurs pour rejoindre certaines agences de dirigeants, de représentants sportifs. Et ce qui a pu amener à perdre certains joueurs que les Marseillais aimaient bien. Et
comme
donc,
qui
du coup, mais Bemba Dieng, par exemple.
Les gars.
Comment ça?
Dieng, c'est qui dans le milieu du football?
Non, mais
c'est un attaquant quelconque, etc. Tu m'aurais parlé de Camara, je t'aurais dit ok, pas de problème. Mais là, c'est un grand nom. Mais il y a personne qui est sorti du centre de formation.
Je te prends des exemples. J'ai pas tout la liste.
On va revenir à Jouba.
Je suis pas au sein même de l'Olympique de Marseille. Mais s'il y a eu pour lui, il y en a eu pour d'autres également.
Quel joueur qui sort de Marseille a brillé ailleurs?
Je te parle pas que du centre de formation. Je te parle même de joueurs que tu fais recruter, que tu ramènes, que tu vas chercher dans d'autres clubs français, que tu vas chercher à l'étranger et que tu ramènes dans ton club et à qui tu mets des pressions. Pour rejoindre certains.
On va revenir, Benji, on va revenir sur l'Olympique de Marseille. Oui. On va revenir, Jouba. Une courte pause, la dernière, et on revient avec Jouba et toute l'équipe de Tamsport.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM pour la dernière partie, 20h et 39 minutes, toujours en compagnie de Mathieu, Benji et sans oublier Annan. Allez, la dernière rubrique de l'émission.
Time Sport, le mode pressing.
On est toujours en compagnie de Jouba au 01 53 48 3000, l'Olympique de Marseille, et oui, qui joue ce soir 21h face à l'Ajax d'Amsterdam dans leur antre, justement, qui est le stadium, c'est
le Johan Cruyff Arena,
c'est ça, ouais. Parce que là avant ça s'appelait l'Arena, ouais, stadium, maintenant ouais, c'est Johan Cruyff Arena. Justement, parler de cette Olympique de Marseille, pessimiste ou pas. En tout cas, Pancho Abbandonado, l'ancien Niçois et aussi Marseillais, est à la bagatelle de cette équipe. Hein. Il est sur le banc. Eh ben oui, entraîneur intérimaire de l'Olympique de Marseille, Mathieu. On espère, avec tout ce qui s'est passé. Ouais, là aussi encore. Que dire ?
Écoute, Bilal, en tout cas, pour ce soir, il a déjà fait des changements. Il a changé. Ouais.
Est-ce qu'on peut balancer les compositions ? On peut balancer la compo.
En tout cas, moi, j'ai des compos. Je sais pas si toi, Benji,
alors, avec Mathieu aussi.
Déjà, il a fait un changement de système. Déjà, il est passé en 4-3-3. Et je vais vous la dire tout de suite, la compo. Alors, avec Lopez dans les buts.
Ouais, c'est ça.
De droite à gauche, Klaus, Mbemba, Jigo, Lodi. Milieu terrain 3, donc avec Valentin Rongier, Kondogbia et Unai qui reprend sa place de titulaire.
C'est vrai.
Et à son poste.
Ouais.
Et devant, on aura Ndiaye à droite, Aminarit aussi de retour
à gauche. Faire pas mal,
et,
ça.
Pierre-Emerick Aubameyang dans l'axe. Donc Unai et Harit que je réclamais mardi.
Ouais, c'est vrai.
Ils sont titulaires.
Ils sont là.
Ils sont là. Et ça fait plaisir parce qu'ils jouent à leur poste.
Ouais, ils sont là. Justement, concernant la compo sur l'Ajax Amsterdam, là aussi, on est en 4-3-3, je crois. Ouais, on a un 4-3-3.
Ouais, on est également en 4-3-3. On est sur, avec du coup, Gorter dans les buts.
Ouais.
Gaï, Soutalo, Ato, Sosa
ça.
Pour la défense. Ayrovic, Taylor, Bergwijn, Broblet et Borges en pointe de l'attaque.
En même temps, l'Ajax, le 4-3-3, c'est leur ADN.
Merci.
Ah bah, c'est l'ADN depuis des années.
Voilà,
donc, c'est le jeu de position, c'est le milieu de terrain solide, des ailiers rapides, et ça propose du jeu. Quoi.
La chance du côté de Marseille, peut-être, Mathieu. Oui.
Ce soir, je suis plutôt optimiste pour l'Olympique de Marseille.
Ouais.
Étonnamment, moi.
Parce que je pense qu'ils vont se... Les joueurs vont se réunir entre eux et vont vouloir donner du plaisir aux supporters de retrouver la victoire. Et je pense qu'ils arriveront à faire abstraction de tout ce qui se passe autour du club parce que eux ils voient le côté sportif surtout.
Bien sûr.
Et je pense qu'ils vont tout faire pour ramener les 3 points de d'Amsterdam. Ouais.
On l'espère, ça ferait du bien.
Moi je suis assez d'accord sur le principe. Étonnamment, j'ai l'impression que. Évidemment, ça n'effacera évidemment en rien tous les soucis de ce qui se passe à l'OM actuellement, ça paraît évident. Mais j'ai l'impression que les joueurs peuvent trouver une certaine solidité et un certain socle où ils peuvent faire front commun en se disant « Ok, on est sur le terrain, on oublie un peu les soucis. » Et je pense que même étonnamment, ils peuvent être vraiment heureux de jouer au football et de dire « Ok, on laisse un peu les soucis qui gravitent autour de notre club actuellement. » Et on se retrouve dans le bonheur de jouer au football. On essaye de rendre fiers les gens qui veulent être fiers de l'Olympique de Marseille. Et ils savent qu'il y a tout un peuple derrière. Ils savent que dans ce groupe-là, tous les points vont compter parce que c'est un groupe qui est quand même relevé pour de la Ligue Europa. Et j'ai l'impression qu'ils... peuvent réussir à faire front commun, alors que ça sera peut-être pas l'OM le plus étincelant depuis très longtemps, mais d'un côté, comme tu le disais, le fait qu'il y ait le retour de Harit et d'Unai, peut-être une volonté de quand même essayer de proposer un peu plus de football.
Ça joue au ballon, quoi.
Ça joue au ballon, contrairement à ce qu'on a pu voir, et j'en mets un petit coup à Marcelino sur,
sur les quelques matchs de Mathieu. Tu fais une belle passe-dé là, parce que Marcelino joue avec son 4-4-2 sans saveur, comme tu disais mardi. Là, en fait, c'est vraiment un message qui a été envoyé, je pense, par Abbandonado, parce que directement. Il change de système.
Moi, je pense que c'est ça.
Et il passe en 4-3-3.
Moi, je pense que c'est une demande des joueurs. Je pense que c'est plus l'inverse.
Je pense que c'est pas une demande des joueurs. Je pense que Abbandonado de lui-même a été voir les joueurs.
Oui, tout à fait.
Et a posé la question aux joueurs de savoir.
Peut-être, Mathieu.
Je pense à Unai, parce que Unai, depuis le début de la saison, joue sur un côté. Ce n'est pas son poste, encore une fois.
Quand il est titulaire.
Là, il est titulaire à son poste, en 8, au milieu de terrain. Il va pouvoir apporter de la créativité, faire des passes, dribbler, un petit peu percuter. Et je trouve que c'est le poste où il est le meilleur. Aminarit, c'est pareil sur un côté, c'est là où il est le meilleur, je trouve. Ouais. Et je pense que c'est Abbandonado lui-même qui a été voir les joueurs pour justement essayer de les sonder un petit peu sur le système et la façon de jouer de l'équipe.
Avant de revenir à Djouba avec Adnan.
Je vais finir pour le système
et aussi Benji.
Et un petit peu apporter un contenu à tes propos. Moi, je pense qu'ils ne fourniront pas en 4-3-3. Je pense que la finalité de ce système-là, ça va être avec 3 défenseurs ou 5 défenseurs, comme on peut le dire, et qu'il le fait de manière très progressive. Parce qu'avec l'effectif qu'il a, je pense que 3 centraux, c'est l'idéal pour ce Marseille-là. Et je pense qu'il passe étape par étape.
Ah, 3-5-2,
étape par étape, exactement.
Ouais. Ouais, Benji, oui. Je suis d'accord. Ouais. Et puis au-delà de ça, j'aurais peut-être pas dit ça si l'OM jouait Brighton ce soir. Mais là, c'est un Ajax quand même qui est extrêmement malade. Et également,
exactement.
Ils ont eu des soucis internes, notamment avec leur directeur sportif qui est dans une sauce plutôt
sacrée panade,
sacrée panade comme tu dis, et puis même au-delà de ça, enfin actuellement, si je dis pas de bêtises, ils doivent être 12-13e d'Eurodivisie, et ils sont à 7 points déjà du top 3 du podium. Ils sont à 3 points de la relégation et à 7 points du podium. On parle de l'Ajax d'Amsterdam, peut-être le club le plus dominant de l'histoire des Pays-Bas.
Mais bon, comme tu as dit tout à l'heure, on l'a dit pour Lens, c'est le début de saison,
bien sûr,
on va rien dire
même pour le Paris Saint-Germain.
Moi, j'ai juste un dernier bémol sur Marseille. Pour moi, c'est trop facile aussi. Moi, il y a un truc qui me gêne, c'est trop facile. Au moindre coup de pression des supporters, tu fais partir l'entraîneur. Et ça, j'accepte pas.
Tu peux pas. Pire début de saison depuis 1965.
Tu peux pas. C'est vrai.
Depuis 1965, c'est le pire début de saison de l'Ajax.
Ça fait très, très, très long.
Après, là, très long. Si je peux une petite dernière chose.
On va rejoindre Djouba là. Il a envie de réagir aussi.
Je te rejoins, Anna, c'est sur la défense à 5. Parce que c'est ce qui a magnifiquement fonctionné l'année dernière et il y a 2 ans avec Sampaoli et avec Igor Tudor.
Bien sûr.
Donc, et je suis même un petit peu étonné parce que je pensais que Abbandonado allait démarrer à 5 défenseurs.
Ouais, je pense qu'il veut le faire step by step.
Voilà.
Et que, exactement. Comme il y a des repères qui ont été faits.
On va le laisser. Voilà. C'est by step.
Exactement.
Par étape, comme tu l'as dit. Oui. Les papillotes, c'est la vie. Voilà. Mais ça, je sais pas. C'est Mourad qui écoute et dit les papillotes, c'est la vie. Ben oui, c'est la vie. En tout cas, on devait accueillir Alibi Montana, l'artiste, mais malheureusement, c'était une émission spéciale olympique de Marseille ce soir avec le match face à l'Ajax d'Amsterdam. Il viendra en studio, c'est promis. Eh ben, peut-être Mathieu, Anan et Benji seront de la partie avec Alibi Montana. Ben justement, on pense à lui. Il doit nous écouter ce soir, tout comme sa communauté de fans. Mais nous, on va s'attarder avec Djouba concernant l'Olympique de Marseille pour revenir. C'est vrai, Marseille, c'est déboire comme toujours. Peut-être, c'est malheureux ce que je dis, mais voilà, on a l'habitude avec l'Olympique de Marseille. C'est comme ça.
Exactement. En même temps, l'Olympique de Marseille met souvent en place des entraîneurs à l'état sulfureux. Je me rappelle à l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, Bilou, mais il y avait le départ de Bielsa qui avait été compensé par l'intérim immédiat de Franck Passy. On ne va pas se mentir, c'est pas la meilleure des conditions. En plus, les supporters veulent tout de suite des résultats. Ils ont été déçus, on le rappelle. Champions Project, 3e place Project, maintenant Europa League Project. Je l'ai déjà dit, ça c'est du grand n'importe quoi. Mais bon, en tout cas, force est de constater que là, il y a un intérimaire, ou en tout cas quelqu'un qui va prendre les rênes suite à la compensation du poste de Marcelino. Rappelons que d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais... Longoria ne va pas partir, il a démenti toute volonté de départ. Donc voilà, mais en tout cas, moi je suis toujours choqué de cette gestion calamiteuse avec un milliardaire, ou en tout cas un ancien milliardaire qui est Macourt, qui gère ça d'une main de rien du tout,
qui est
super loin de tout, quoi.
Mathieu, vas-y.
Macourt a toujours dit qu'il n'allait pas mettre des millions et des millions comme le font les Qataris au PSG,
Pourquoi il appelle ça le champion de project alors?
Mais ça fait longtemps qu'ils n'ont plus appelé champion de project.
Il a mis 250 millions au début, et après il a pu mettre la main à la poche. Et malgré ça, Longoria a quand même fait certains miracles.
Ouais, des miracles, faut le dire.
Bien sûr.
Pas faux.
Non, mais encore une fois, Longoria, saluer le travail, merci, il fait son travail. Il a le budget, il n'est pas notamment aux abois, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, forcer là ce soir d'essayer de limiter la casse. On se rappelle, l'Ajax Amsterdam, ça a quand même été très loin, demi-finaliste de Ligue des Champions il y a quelques années, avec notamment De Lier, Van de Beek,
bien sûr,
France,
bien sûr.
ça cartonnait à cette époque-là. Bon, là, c'est un Ajax un peu amoindri. Ouais. Mais il faut se méfier, là,
Jacques. C'est le début, c'est le début, mais il faut se méfier. Benjamin le disait aussi. Il faut se méfier.
Il faut se méfier, bien sûr.
Il se trouve très dur avec Longoria.
Longoria, il est dur, Juba.
Je vais te dire pourquoi. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, à une époque, il y avait un certain Zubizarreta qui était directeur sportif de l'OM, et on pensait qu'il allait ramener plein de joueurs, des pépites espagnoles, etc. Ouais. Il a rien fait. Il a rien fait et il avait le budget. Là, Longoria, il bricole, certes, mais il ramène des joueurs, il en fait partir. Voilà, il y a des paris qui sont faits, il prend des joueurs confirmés également, voir un Aubameyang à Marseille. Mais il y a deux ans, il y a deux, trois ans, tu ne l'aurais même pas rêvé.
Alexis Sanchez.
Sanchez aussi. Merci Mathieu.
Mais pour quel résultat au final ? C'est le résultat qui compte au final. Ouais. Est-ce que on veut faire du bling-bling comme au PSG à ramener des
bling-bling
comme Aubameyang, comme Alexis Sanchez ? Mais au final, il fait 3e de Ligue 1. Qui est un championnat pitoyable au passage.
Jouba, parce que pour toi, 3e l'année dernière et 2e il y a deux ans, c'est des résultats pitoyables ?
Bah, moi je suis désolé, tu dois finir devant Lens, c'est le minimum.
Ça, je suis d'accord.
Le minimum avec tous les moyens. Ouais.
Est-ce que tu crois vraiment que Lens va faire la même saison tous les ans?
Non, mais je le dis pas.
Lens a fait une saison extraordinaire l'année dernière, et sur le coup, on peut que leur dire bravo.
Bien sûr, on leur dit bravo à Lens.
Parce que l'OM n'a pas fait une mauvaise saison l'année dernière non plus.
L'OM, oui, ils n'ont pas fait une mauvaise saison, je te le dis. Mais. Là, on demande l'exigence quand on a les moyens, quand on a des joueurs comme Sanchez l'année dernière, quand on a des joueurs assez qualifiés, quand on dit qu'on veut faire quelque chose de grand, quand on vante les qualités de Longoria, finir troisième, c'est une catastrophe.
D'accord, mais moi je vais.
En plus, derrière, ne pas se qualifier en Ligue 1.
Je vais te dire le réel problème.
Alors vas-y, Mathieu. Je pense à tout le monde.
Ce n'est que mon avis. Mais le réel problème pour moi, c'est l'élimination contre le Panathinaikos.
Ouais.
Exactement.
Si l'OM aurait été en Ligue des Champions cette année, il serait rien passé. Rien du tout.
Ouais, je crois.
Pas aussi fort.
Si l'OM s'était qualifié pour la phase de groupe de Ligue des Champions, silence radio.
Il y aurait eu front commun, les supporters auraient été derrière à fond. Ça, c'est sûr et certain.
Alors, vas-y.
Et aller un peu plus haut, justement, dans le problème, et là, t'as raison. Mais je pense que le gros point négatif de Longoria, en tout cas son défaut, c'est de ne pas savoir retenir ses entraîneurs. Et que s'il aurait retenu ses entraîneurs, parce que normalement, ça doit être l'une des qualités d'un président,
Exactement.
Il aurait plus de régularité et on n'en serait pas là aujourd'hui.
Jouba, on t'écoute.
Exactement, mais comment on peut me vanter les qualités de Longoria quand t'as le changement d'entraîneur tous les ans, que t'aies eu Sampaoli qui soit parti au bout d'un an, que t'aies eu Igor Tudor qui soit parti au bout d'un an, et là, Marcelino au bout d'un mois, les gars.
Non, je suis d'accord avec toi. Là, Jouba, je suis d'accord.
C'est ça le but d'un président. Vous imaginez, vous, un président qui ne fait pas durer ses entraîneurs. C'est un aveu d'échec, c'est une catastrophe.
C'est que t'as pas de vision sur la durée.
Vas-y, Benji.
Je suis complètement d'accord avec toi, Jouba, sur ce principe. Et là où je te rejoins énormément aussi, Jouba, c'est. Sur le côté entreprise, sur le côté vraiment où t'as vraiment l'impression que McCourt commence à déjà vouloir voir la suite après l'Olympique de Marseille, où t'as vraiment l'impression qu'il souhaite avec Longoria de pouvoir commencer à valoriser de plus en plus l'Olympique de Marseille.
Quand tu vois un Américain débarquer dans un club de Ligue 1, l'histoire, on la connaît.
Faut arrêter d'être naïf.
Quand un Américain débarque devant un club français, on sait très bien le comment du pourquoi.
Mais là, t'as Marseille, ça va pas plaire aux supporters derrière. T'as la passion.
C'est scandaleux, il a dit. Benji, le pronostic ce soir. Ajax OM.
Ajax OM. Un partout avec un but d'Aubameyang. J'en profite juste pour dire que Rennes s'est imposé 3-0 face au Maccabi Haïfa.
C'est
ça. Et qu'il y a eu un partout entre l'Union Saint-Gilloise et Toulouse. Ouais.
Et Toulouse fait le nul.
Exactement. Et deux très beaux buts, si vous avez l'occasion de voir.
On ira voir, c'est promis. Voilà, sous les conseils de Benji, Mathieu, le pronostic. Ajax Marseille ce soir.
OM, je vais dire 2-0 pour l'OM.
2-0 pour l'OM, Adnan.
1-0 pour l'Ajax.
1-0 pour l'Ajax. Peut-être avec Solan, non, il a prépare l'émission déjà de Vanessa qui arrive 21h 23h et nous on se retrouve dès demain. Un grand merci à Jouba. Jouba il aurait prédit peut-être 3 partout parce qu'il veut des buts. Allez, on se retrouve dès demain. Bye bye.